Et le journal est présenté aujourd'hui et toute cette semaine par Antoine Denecher. Bonsoir Antoine.
Bonsoir. Objectif, relancer le mouvement contre la loi travail. Plusieurs syndicats, CGT et FO en tête, lancent une série de grèves reconductibles à partir de demain dans les transports ou encore les raffineries. Pendant ce temps-là, plusieurs préfets viennent de prendre des décisions plutôt rares. Ils publient des arrêtés pour interdire à certains militants de participer aux manifestations de demain, à Paris et à Nantes notamment, afin d'éviter de nouvelles violences. On fait le point avec Marie-Pierre Véraud. Peut-on réellement parler d'un racket de migrants de la part de certains médecins qui leur demanderaient des sommes indues en échange de certificats médicaux? Après les accusations de l'association CIMAD, Aurélie Kiffer nous répondra dans un instant. Dans ce journal également, un reportage de Sébastien Farcy au Bangladesh. Dans ce pays aussi, Daesh tente de faire régner la terreur. Plusieurs blogueurs, militants laïcs ou encore homosexuels ont été assassinés récemment. Enfin, une journée cannoise aux accents américains. Antoine Guillot a vu les films de Jim Jarmusch et de Jeff Nichols en compétition. Il nous appellera depuis la Croisette et puis du grain à moudre à partir de 18h20. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Hervé Gardette.
Eh bien, nous allons nous intéresser à l'histoire du Moyen-Orient à travers la question suivante. 100 ans après, les accords Sykes-Picot ont-ils bon dos? Et nous en discuterons avec Julie Dandurin, Myriam Benrad et Gaïd Zminassian.
À tout à l'heure, 18h20. Bloquer l'économie pour faire plier le gouvernement, c'est ce que veulent faire les syndicats mobilisés contre la loi travail depuis 3 mois maintenant. En plus des manifestations prévues demain et jeudi, on va en reparler. Des grèves reconductibles sont donc annoncées dans des secteurs clés. Les transports tout d'abord, CGT et Force ouvrière ont déposé des préavis chez les routiers à partir de 22h ce soir. Le mouvement devrait toucher principalement Lille, Caen, Bordeaux, Nantes et Marseille. À la RATP en région parisienne, un préavis est déposé pour demain. À la SNCF, Sudrail appelle à la grève reconductible à partir de demain. La CGT, quant à elle, a déposé un préavis pour mercredi et jeudi. Puis la CGT entend également bloquer les ports. Ça, c'est pour demain, mardi. Illustration avec Éric Delaporte. Il est délégué syndical CGT de Boluda à Marseille-Fos. C'est le prestataire de service de remorquage du port de Marseille.
Les remorqueurs ne travailleront plus. Tous les navires qui vont rentrer dans le port de Marseille-Fos n'auront pas de remorqueurs pour les assister, quoi. Donc certains pourront rentrer seuls, mais une grande majorité ne pourra pas. Ça va bloquer les entrées de containers, ça va les approvisionnements de magasins, ça va bloquer l'entrée du pétrole, du gaz, ça va perturber l'économie, forcément. Pour nous, c'est clair, hein, c'est clair au niveau de notre fédération. C'est pas en faisant 24 heures de grève tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines ou tous les mois qu'on va arriver au retrait de cette loi. Donc maintenant, c'est le moment de passer à un mouvement un peu plus dur. C'est notre manière d'essayer d'obtenir ce qu'on n'a pas pu obtenir par le dialogue. Et puis c'est un gouvernement, là, encore vieux, le 49-3, qui passe souvent en force, quoi. Donc il faut avoir tout essayé. Et si on ne durcit pas le mouvement, on n'aura pas tout essayé.
Éric Delaporte interrogé par Wassila Guitoun. Les raffineries pourraient également être bloquées puisqu'un préavis de 72 heures est lancé à partir de demain par la CGT. En plus de ces grèves, des manifestations sont donc prévues demain et jeudi contre la loi travail. Et la tension, déjà très élevée compte tenu des violences constatées lors des derniers rassemblements, est encore montée d'un cran aujourd'hui avec cette décision de plusieurs préfets d'interdire à des militants anti-loi El Khomri de manifester demain en vertu de l'article 5 de la loi sur l'état d'urgence. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
Ces arrêtés préfectoraux ne sont pas des assignations à résidence, mais des interdictions de paraître dans un périmètre défini. Ils ont été pris à Paris et à Nantes, notamment, pour demain. Et en fait, il n'y a pas que des personnes déjà interpellées ou condamnées pour des violences qui sont concernées.
Et non, puisque l'on compte parmi elles un journaliste, un photoreporter indépendant du collectif Œil. Noman, c'est son pseudo, a suivi toutes les manifestations contre la loi travail. Ces photos qui montrent des violences policières ont été publiées notamment dans Paris Match ou encore à l'étranger. Il lui est reproché d'avoir à de nombreuses reprises été remarqué lors de manifestations contre les violences policières ou la loi travail. Il se trouve que c'était justement son travail, manifestement, estime son avocat. On lui reproche d'avoir été au bon endroit, au bon moment, avec pour seule arme son appareil photo et ses flashs. Maître Mahati dénonce une atteinte à la liberté de la presse sous couvert du maintien de l'ordre dans le référé liberté qu'il a déposé devant le tribunal administratif de Paris. Des arrêtés pris donc à Paris et à Nantes, vous le disiez, théâtre également de manifestations qui ont dégénéré. Et parmi les personne visée à Nantes, Pierre Douillard, un militant contre les violences policières. Il avait perdu un œil après un tir de flashball en 2007 et il dénonce une décision politique.
Moi, hasard du calendrier, dirons-nous, j'ai publié un livre sur les violences policières il y a 3 jours. Comme par hasard, 3 jours après, il y a des OPJ en bas de chez moi qui veulent me faire signer ce document. Le policier qui a sonné à mon domicile ce matin disait « c'est une interdiction pour les prochaines manifs ». Ce qui s'est passé, c'est que moi, il m'a tendu un document signé du préfet, etc., que je devais signer. Et comme j'ai pas pu prendre connaissance en détail du document, j'ai pas accepté de le signer. Et du coup, avec son collègue, il a dit « si vous refusez de signer, on vous donne pas le document ». Donc ils sont re-rentrés dans leur voiture et je ne peux pas vous dire précisément ce qu'il y avait dans ce document. Donc on est dans une situation un petit peu ubuesque, on est sur une logique qui est extra-judiciaire, extra-légale. On utilise l'état d'urgence et les procédures antiterroristes pour frapper sur le mouvement en cours.
Le tribunal administratif de Paris a été saisi d'une dizaine de référés liberté en urgence, déposés notamment par des militants du collectif antifasciste Paris Banlieue. Il doit les examiner demain matin.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. Vous parliez de Nantes. Il y a une autre ville, Rennes, dans laquelle depuis plusieurs semaines les manifestations anti-loi travail dégénèrent avec des violences importantes contre les biens et les personnes. Alors pourquoi cette situation dans une grande ville pourtant dirigée depuis plus de 30 ans maintenant par un PS plutôt de centre-gauche, parfois même inspiré de la démocratie chrétienne? Écoutez l'explication de Romain Pasquier, il est directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po Rennes.
Le fait justement d'être une gauche de gouvernement pragmatique, assez en phase avec les options du gouvernement, fait qu'elle prête le flanc à un gauchisme beaucoup plus virulent. Ça remonte au début des années 68, lié à la scission entre deux universités, et Rennes 2 devenant effectivement le fer de lance, une contestation estudiantine qui, dans les années 80-90, va percuter des collectifs anti-extrême droite. On voit bien que l'affrontement physique ne fait pas peur en Bretagne à différents groupes sociaux, notamment, on le voit bien dans le milieu paysans. On l'a vu aussi dans les années 90 avec les pêcheurs.
Rennes n'est pas très loin de Nantes et de son projet d'aéroport.
Voilà, entre Rennes et Nantes, à environ 60-70 km de Rennes, il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a une zone à défendre et c'est enquisté un réseau d'autonomes venus d'Europe entière qui exportent leur savoir-faire. Et je pense qu'on peut retrouver leurs traces à Nantes et à Rennes contre la loi travail.
Le chercheur Romain Pasquier, interrogé par Frédéric Métezeau. Arnaud Montebourg lance un appel à tous ceux qui veulent construire un projet alternatif pour 2017. L'ancien ministre a gravi le mont Beuvray ce midi en Saône-et-Loire, accompagné de la députée Aurélie Filippetti, sa compagne, et de plusieurs autres socialistes frondeurs. Montebourg qui fait donc un pas de plus vers une possible candidature à la présidentielle. On vous en a parlé dans le journal de 12h30 sur France Culture. En région parisienne, des migrants gravement malades se voient demander de l'argent pour obtenir le certificat médical qui leur permettra de faire une demande de titre de séjour pour raison de santé. Après la suspension la semaine dernière d'un médecin de l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, la CIMAD, association qui vient en aide aux migrants, assure que le phénomène est courant. Pour autant, Aurélie Kiffer, s'agit-il d'un véritable racket et quelle est l'ampleur réelle du phénomène ?
Difficile à dire. Il y a ce cas particulier d'un praticien de la Pitié-Salpêtrière. À plusieurs reprises, il aurait reçu de l'argent, en espèces, en échange d'un certificat. Si les faits sont avérés, c'est totalement illégal. La PHP s'est d'ailleurs tournée vers la justice et le Conseil de l'Ordre. La CIMAD n'avait pas connaissance de problèmes au sein de l'hôpital public. Elle, ce qu'elle dénonce, ce sont les mauvaises pratiques des médecins agréés, des médecins de ville, autorisés eux aussi à délivrer aux migrants gravement malades les rapports médicaux qui leur permettront de demander un titre de séjour. Ces actes de soins sont remboursés par l'assurance maladie. Et les migrants, pris en charge par l'aide médicale d'État ou la couverture maladie universelle, n'ont pas à avancer cet argent. Pourtant, dit la CIMAD, de nombreux migrants doivent payer pour obtenir ce papier indispensable à leur démarche, des dépassements d'honoraires venant souvent gonfler la facture. Au téléphone, un médecin des Yvelines nous a annoncé une consultation à 35 euros, non remboursée par la Sécu. D'après la CIMAD, on est plutôt à 90 euros en Seine-Saint-Denis, parfois même plusieurs centaines d'euros. Au mieux, ces professionnels sont mal informés des procédures et la liste de médecins fournis aux migrants est inappropriée au vu des tarifs des consultations. Au pire, certains médecins sont prêts à abuser de personnes en grande détresse. La CIMAD n'est pas en mesure de quantifier ces dérives. Une réunion sera organisée cette semaine au ministère de la Santé pour tenter d'éclaircir la situation.
En Amérique du Sud, il n'y a pas que le Brésil qui est en proie à d'importantes tensions politiques. Le Venezuela est également au bord du chaos et la semaine s'annonce très mouvementée dans ce pays. Tout à l'heure, le président Nicolas Maduro doit détailler les modalités du décret de l'état d'exception qu'il a annoncé ce week-end. Maduro qui a aussi ordonné samedi la saisie des usines paralysées par la bourgeoisie, je cite, et l'emprisonnement des entrepreneurs accusés de saboter le pays. Le successeur de Chavez doit faire face à un parlement hostile, à une montée de mécontentement et d'impopularité. Il accuse
accuse les États-Unis de vouloir le renverser, Nadine Hempstein.
Bourbier politique, économique, énergétique, pétrolier, social, sécuritaire, le Venezuela est secoué de toutes parts et la population en paie le prix fort. Les Vénézuéliens vivent un quotidien de plus en plus chaotique. Chaque jour, un nouveau produit de base commence à manquer et s'ajoute à la liste déjà longue des pénuries. Sucre, farine de maïs, lait, huile, papier toilette, couches, médicaments, savon, électricité. La monnaie nationale dévaluée de moitié et la valeur du bolivar au marché noir vaut jusqu'à 10 fois la valeur officielle. Par exemple, une boîte de 40 œufs est passée de 200 bolivars à 600, environ 87 euros. Le ticket de transport multiplié par 5 avoisine les 7 euros. Les caisses de l'État se vident, les revenus du pétrole sont passés de 80 milliards en 2013 à 20 à 25 milliards en 2015. Les députés et les employés du Parlement n'ont pas été payés le mois dernier. Les services publics ont été réduits à ne fonctionner uniquement 2 jours. Les pillages, les meurtres, la violence urbaine s'étendent. Bref, face à une situation intérieure explosive, le président Nicolas Maduro brandit la menace extérieure. Conservant la rhétorique anti-américaine chère à Hugo Chavez, le chef de l'État vénézuélien accuse les États-Unis de vouloir le faire tomber. L'opposition vénézuélienne, elle, craint que l'état d'urgence et les mesures répressives ne visent qu'à refuser le processus d'un référendum pour révoquer le président. 1 800 000 signatures ont été recueillies et les autorités électorales trancheront mercredi sur la recevabilité de ce référendum. Les anti-Maduro manifesteront ce jour-là.
Des explications signées Nadine Hempstein. Comme prévu, les grandes puissances, parmi lesquelles les États-Unis, la Russie, la Chine et la France, se disent prêtes à armer le gouvernement d'Union nationale en Libye, pays qui doit faire face à l'avancée de Daesh. C'est ce qui ressort du communiqué final publié après la réunion de Vienne en Autriche. Précisément, la communauté internationale se dit prête à répondre aux demandes du gouvernement de Tripoli en vue d'entraîner et d'équiper la garde présidentielle et les forces autorisées. Mais que se passe-t-il donc au Bangladesh? Ce pays compte la 4e plus importante population musulmane au monde, avec 150 millions de pratiquants. Jusque-là, le Bangladesh avait été épargné par les mouvements islamistes grâce à son éloignement du Moyen-Orient. Mais cela est en train de changer. Depuis 3 ans, 12 personnes, principalement des blogueurs et des militants laïcs, ont été sauvagement abattues par des islamistes. Et en décembre dernier, pour la première fois, l'organisation État islamique a revendiqué l'assassinat d'un humanitaire italien au Bangladesh. Depuis, le rythme des meurtres signés par ce groupe terroriste ne cesse d'augmenter, signe de l'attrait grandissant de Daesh dans ce pays pauvre. C'est un reportage signé Sébastien Farsi.
Pranab Acharya ne peut pas dire où il habite. Depuis 3 ans, cet ancien professeur et blogueur est persécuté par les islamistes et il doit déménager tous les mois, voire toutes les semaines.
J'ai changé 3 fois de numéro et détruit les cartes SIM, mais je sais qu'ils peuvent quand même me suivre à la trace dans Dhaka. Je ne sais pas comment ils récupèrent mon numéro, mais je suis persuadé que les fondamentalistes ont des liens étroits avec les autorités. Face à eux, nous ne recevons aucune protection.
Depuis 3 ans, les militants laïcs sont traqués. La plupart ont défilé en 2013 sur la place Shabag de Dhaka pour réclamer l'exécution des islamistes reconnus coupables de crimes contre l'humanité. Mais peu de temps après ces manifestations, les religieux ripostent et diffusent une liste de 84 blogueurs dits athées qui auraient insulté le prophète. Des noms qui deviennent des cibles. Sur les 84 personnes, 10 ont été sauvagement abattues en 3 ans. Les autres mentionnés, comme Pranab Acharya, vivent maintenant terrés ou ont fui le pays à la quête de l'asile politique. Et depuis quelques mois, la situation empire. Al-Qaïda et l'organisation de l'État islamique ont revendiqué leur premier crime. Les cibles s'élargissent, ils frappent maintenant les hindous, les homosexuels et même les musulmans chiites. Dans le quartier de Rayar Bazar, au sud de Dhaka, Mohamed Shakil tient une petite école coranique pour enfants. Il se souvient de l'ancien imam de la mosquée du quartier.
Il parlait souvent du djihad et de l'importance de le faire pour les fidèles. Il y avait beaucoup de monde qui y assistait, des personnes du quartier, mais aussi beaucoup venaient de loin pour l'écouter.
Ce prêcheur militant est Jassim Odin Rahman, un moufti arrêté en 2013 par la police antiterroriste. Il est accusé d'être le chef spirituel de l'Ansarullah Bangla, un des groupes islamistes bangladais affiliés à Al-Qaïda et qui a signé plusieurs meurtres de blogueurs. Le gouvernement, lui, dément toute présence de groupes djihadistes étrangers sur son sol. Et en effet, les acteurs seraient locaux, mais l'inspiration étrangère, selon Shafkat Mounir, chercheur à l'Institut Bangladais d'études sur la paix et la sécurité.
Il existe maintenant un système de franchise du djihad. Les groupes locaux agissent au nom des internationaux et au final, les deux bénéficient de la publicité. Les noms des mouvements locaux ne sont pas si importants. Ils sont créés pour leurrer les forces de l'ordre. Il n'y a en fait que deux ou trois groupes qui opèrent au Bangladesh. Le plus grand doit avoir un peu plus de 1000 membres et le plus petit quelques centaines. Pour les combattre, il faut absolument lutter contre la radicalisation en ligne. Les Bangladais qui sont partis en Syrie pour rejoindre l'État islamique n'avaient pas participé à des activités islamistes auparavant. Ils ont été endoctrinés sur Internet.
Le porte-parole de la police nationale n'a pas pu nous dire quels efforts supplémentaires ont été entrepris pour lutter contre cette radicalisation sur Internet.
Un reportage au Bangladesh signé Sébastien Farsi. Il y a 50 ans, en Chine, Mao lançait sa révolution culturelle et pendant 10 ans, les gardes rouges allaient humilier des intellectuels, brûler des livres, saccager des temples au nom de la lutte contre les quatre vieilleries, les idées, la culture, les coutumes et les habitudes. Un anniversaire qui est largement passé sous silence en Chine aujourd'hui, Dominique André.
Pour un événement de cette ampleur, il n'y a rien dans la presse. Seul le Global Times, journal anglophone proche du quotidien du peuple, publie une photographie étonnante d'une femme mangeant un bol de nouilles devant un portrait de Mao Tse-tung. Avec cette légende, aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de la révolution culturelle. Le souvenir de Mao continue de semer la discorde parmi différents groupes. Pourtant, dans les années 80, le sujet a été commenté, car l'équipe de Deng Xiaoping, l'homme fort de l'ouverture économique de la Chine, en avait souffert, à commencer par le fils de Deng, qui avait sauté par une fenêtre pour échapper aux gardes rouges. Le sujet est tabou, mais il n'est pas censuré, comme peut l'être Tiananmen 89. Sur les réseaux sociaux, les mots-clés « révolution culturelle » et 16 mai 66 ne sont pas bloqués. On trouve quelques commentaires, comme celui d'une intellectuelle activiste qui affirme que le pays ne peut pas tirer de leçons tant que le travail de vérité n'aura pas été fait. Elle prend pour exemple les dirigeants allemands qui se sont agenouillés à Auschwitz. 50 ans après, les blessures ne sont pas refermées.
Comme chaque soir dans le journal de 18h, nous filons sur la croisette. Bonsoir Antoine Guillot.
Antoine.
Vous suivez la compétition officielle du Festival de Cannes, 5e journée aujourd'hui, la journée des Américains, si l'on peut dire, avec le film de Jeff Nichols, Loving, et celui de Jim Jarmusch, Patterson. C'est plutôt un bon cru américain ?
Un très bon cru, oui. Loving, comme son titre l'indique, c'est avant tout une histoire d'amour très simple. Richard aime Mildred, un enfant est en route, il se marie, sauf qu'on est en 1958 dans une petite ville de Virginie, que Richard est blanc et Mildred noir. Et ça, dans le sud ségrégationniste de l'époque, c'est interdit et puni de prison. Prise en main par l'Union américaine pour les droits civiques, l'ACLU, cette affaire va remonter jusqu'à la Cour suprême des États-Unis qui rendra le 12 juin 1967 la fameuse décision Loving contre l'État de Virginie qui réaffirme le droit fondamental au mariage et aboutit de fait à la suppression de toutes les législations anti-métissage dans les États du Sud. Le tout venant des cinéastes hollywoodiens aurait tiré de cette histoire vraie un biopic édifiant ou un film de procès militant. Jeff Nichols, en grand cinéaste néoclassique qu'il est, dans la lignée d'un Clint Eastwood, fait tout autre chose. Il se concentre sur l'histoire d'amour pure et simple, sur le quotidien de ce couple qui ne se vit pas comme exceptionnel mais veut simplement vivre libre ensemble. L'auteur de Shotgun Stories, Tech Shelter, Mud et Midnight Special n'a finalement jamais fait que ça, filmer dans des circonstances exceptionnelles des gens qui veulent simplement prendre soin des leurs, les protéger et vivre leur vie la plus tranquille et quotidienne.
Mais justement, la vie quotidienne dans sa routine même, Antoine Guillot, c'est aussi ce que filme l'autre Américain en compétition aujourd'hui, Jim Jarmusch.
Oui, c'est ça, Patterson. 7 jours de la vie routinière et répétitive d'un chauffeur de bus dans cette petite ville du New Jersey, connue des amateurs de poésie pour avoir été le berceau d'Allen Ginsberg ou de William Carlos Williams, sauf qu'il s'agit précisément de ça, de poésie, parce que l'anti-héros qui porte le nom de sa ville, joué avec une subtile indolence par l'excellent Adam Driver, en écrit de la poésie, mais surtout parce que le regard de Jim Jarmusch sur sa vie et sa ville l'est éminemment poétique. C'est une sorte d'exercice oulipien, les exercices de style de Queneau se passent dans un bus, rappelez-vous, qui peut désarçonner après l'envoûtant film de vampire Only Lovers Left Alive, mais qui nous a emportés par sa langueur monotone.
Merci beaucoup Antoine Guillot. On vous retrouve demain à la même heure en direct de Cannes et puis demain matin aussi dans le journal de 7h où vous signerez le portrait du jour concernant Cannes. J'ajoute que la direction du festival annonce la programmation en dernière minute du film Peshmerga de Bernard-Henri Lévy, tourné auprès des combattants kurdes le long de la frontière irakienne. Il sera présenté vendredi en séance spéciale. La météo demain, globalement plus agréable sur la France, même s'il faut s'attendre à des nuages demain matin dans l'ouest. Température au lever du jour de 4 à 8 degrés sur une grande moitié nord-est, de 7 à 12 de la Bretagne à la Méditerranée, maximale de 15 à 19 degrés demain après-midi sur la moitié nord, 18 à 24 degrés au sud. Un grand merci à François-Charles Domergue pour son aide.